Qui est votre héros? C'est une figure qui m'a toujours interrogé, moi, la figure du héros, que ce soit au cinéma, en art, dans les livres ou même dans la vie, celui ou celle que l'on présente comme héroïque. Parce que le héros, c'est avant tout celui qui se distingue par son courage, ses actions, sa renommée, certes, mais d'abord celui qui se distingue de la communauté. Et il n'est pas besoin d'avoir lu l'œuvre de Bourdieu pour comprendre que la distinction, ça va pas sans une certaine violence, sans une certaine conscience de la domination. On se distingue par rapport aux autres. Imaginez qu'en lieu et place de cette distinction, on pense l'héroïsme au pluriel. L'héroïsme des pompiers, tiens, anonymes qui font le serment de sauver ou périr pour la communauté. L'héroïsme des manifestants, au pluriel, quel qu'il soit, qui revendiquent une liberté ou un droit, qui résistent à plusieurs pour que le fait politique ne se réduise plus à une personnalité, justement, à une posture, à un parti, mais à des idées partagées. L'héroïsme des signataires de tribunes ou de pétitions qui additionnent leur nom, leur voix, et qui font corps pour une cause qui leur semble juste et qui finira par être entendu. N'est-il pas là l'héroïsme aujourd'hui? Non pas dans une figure qui sort du lot, mais dans un ensemble. Non pas dans une incarnation, mais dans une flopée d'anonymes. Non pas dans une sacralisation, mais dans un partage après tout. Qui sont vos héros? À vous.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Qu'est-ce qu'un héros pour mon invité d'aujourd'hui? Il est comédien, l'une des personnalités préférées des Français, l'une des plus influentes aussi. Mercredi, il sera à l'affiche de Yao, le nouveau film de Philippe Godot, la belle histoire du retour d'un homme dans le Sénégal de ses ancêtres. Un film solaire pour un projet très intime en réalité. Bonjour Marcy.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup.
Mon héros, c'est toi.
Oh,
mon héros, c'est toi pour tes mots. Pour tes mots dès le matin.
Je viens de dire que ça devait être au pluriel.
Non, c'est au singulier. Et c'est Augustin Trapenard.
Non mais qu'est-ce que c'est, sérieusement, un héros pour vous, Marcy?
Ben, un héros, c'est plusieurs choses, mais tu viens de le dire, c'est plusieurs choses, mais c'est des fois aussi juste une action. Mais tu parlais des pompiers, en ce moment, ouais, je dirais pompiers, ouais.
Ce sont des gens qui sauvent des vies, en fait.
Oui, et qui en plus le font dans l'anonymat. Et c'est encore plus grand, je trouve, parce que ça prouve bien qu'ils le font pour ce que ça signifie et pas pour la gloire.
C'est intéressant parce que vous n'êtes pas le dernier à manifester votre soutien à des causes, aux marques qui vous tiennent à cœur. Je pense aux Rohingyas aussi, très récemment au jeune Modi, cet adolescent malien qui restera finalement dans sa famille d'accueil en Inde. Quel poids est-ce que vous avez l'impression qu'elle a, votre voix, à vous aujourd'hui? Parce qu'elle en a une.
Oui, mais je me pose pas cette question-là. En réalité, quand je réagis sur des choses comme ça, je réagis tout simplement spontanément, sans réflexion, et donc je me dis pas que ma voix a tel ou tel poids, et je me dis juste que voilà, je peux faire quelque chose à ce moment-là parce qu'on me sollicite pour ça, et je le fais tout simplement parce que ça me touche, ça me parle, et puis j'essaye avec ce que j'ai.
Pour autant, vous en avez pris conscience à un moment donné de l'impact de votre parole, du fait qu'on vous écoutait plus, qu'on vous suivait plus?
Non, ce que j'ai remarqué, c'est que effectivement le micro était tendu plus souvent chez moi, et souvent même pas du tout justifié. On vient des fois me poser des questions sur des choses qui me concernent pas, sur des choses que je ne suis pas censé commenter, et ça j'en ai pris conscience, oui, et donc j'ai pris conscience aussi qu'il y avait un moment où il y a la liberté d'expression, et la liberté d'expression, il y a aussi dans l'expression, il y a aussi le silence. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer mon silence.
Savoir se taire aussi sur certains sujets.
Bien sûr, c'est important.
En ce qui concerne Modi, c'est intéressant parce que ce qui se jouait à nouveau à travers l'histoire de cet adolescent, c'était la question de l'accueil de ceux qu'on désigne comme étrangers. Ce mot étranger, qu'est-ce qui vous évoque?
Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il m'évoque l'histoire de ma famille. L'histoire de ma famille, une sensation aussi des fois, un sentiment.
Vous êtes arrivé de vous sentir étranger?
Bien sûr. Tout bêtement, me sentir étranger quand je pars de Trappes et que je vais au lycée qui est juste à 3 km de chez moi, j'arrive au lycée, je suis un étranger. Et pourtant, j'ai pas beaucoup voyagé. Quand plus jeune, je venais à Paris, je me sentais étranger. Enfin, c'est aussi tout simplement un sentiment, la manière dont les autres vous regardent.
Les États-Unis aussi, je suppose.
Les États-Unis, j'y habite, j'y vis, mais je suis un étranger.
Votre personnage dans Yao, quand il arrive au Sénégal, on le regarde pas comme un enfant du pays, pas comme un noir, on le regarde comme un Bounty.
Oui.
C'est quoi un Bounty?
Ben c'est un étranger. C'est encore un étranger. C'est un noir, mais qui est blanc à l'intérieur. Voilà, qui se comporte comme un blanc. Mais dans le film, c'était intéressant d'avoir cette expression-là parce qu'elle existe.
Oui.
Et c'était important aussi de montrer que justement, ce qu'on appelle les binationaux, ils vivent en France et peuvent avoir justement ce sentiment de se sentir étranger en France, dans leur pays, puisqu'ils sont français. Mais aussi de se sentir étranger quand ils vont dans le pays de leurs parents. Parce qu'on les voit comme des Français, en fait, à l'extérieur. Et ici, on les voit comme Sénégalais, s'ils sont Sénégalais d'origine. Donc, c'est pour dire que les binationaux, finalement, on dit binationaux, c'est comme s'ils avaient deux nationalités. Mais en réalité, il y en a certains qu'on n'ont même pas une.
Vous parlez de vous aussi, là, quand vous allez au Sénégal, vous êtes quoi?
Non, pour ma part, c'est différent, parce qu'en fait, j'ai eu la chance de connaître le Sénégal jeune et d'y aller jeune. Donc, je suis un petit peu plus à l'aise. Et surtout, j'ai appris avec le temps à pas attendre qu'on me dise bienvenue.
Yao, c'est donc l'histoire d'un acteur célèbre qui, au hasard d'une rencontre avec un jeune garçon qui a traversé le pays pour le rencontrer, retourne sur la terre de ses ancêtres. Quelle relation est-ce que vous entretenez, vous, avec ce pays, aujourd'hui?
Je sais pas, c'est un pays où j'aime bien retourner. C'est un pays où il y a ma famille. Donc, j'aime bien retourner. J'ai aussi des amis là-bas maintenant, beaucoup. Et j'ai des rendez-vous. Il y a des endroits qui m'attendent que je dois retrouver. Il y a certains arbres que j'aime bien aller revoir. Ah. Certaines plages que j'aime bien retrouver. Donc, j'ai plein de rendez-vous comme ça à la nature dans quelques endroits dans le monde comme ça. Et il y a le Sénégal, ouais.
Et vous parliez de vos souvenirs d'enfance. Pourquoi c'était si important pour votre père que vous y alliez au Sénégal?
Ben, on comprenait pas tout de suite. Jeune, on comprend pas trop ce que nos parents veulent, ce qu'ils nous disent.
C'est vrai.
Et pourquoi ils nous font faire des choses. On comprend plus tard. Et je crois que mon père, justement, il voulait pas que je me sente étranger là-bas. C'est pour ça qu'il nous faisait arriver là. Mais c'était pas le Club Med, hein. On traînait des pieds pour y aller. On voulait pas. C'est 2 mois là-bas, dans un village comme ça, en Mauritanie, au Sénégal. C'était pas la fête. Mais après, très vite, on apprend à s'occuper. On fabrique des lance-pierres, on chasse des pigeons, on grimpe aux arbres.
Et ce sont des souvenirs chèvres qui restent.
Et finalement, ce sont des bons souvenirs. Mais finalement, en fait, mon lien à la nature, je l'ai développé aussi au Sénégal.
Quand vous êtes rendu sur le tournage du film au Sénégal, il paraît que ça faisait 8 ans que vous n'y étiez pas allé.
Oui, c'est vrai. Entre la dernière fois où j'étais parti au Sénégal et le moment où je suis parti tourner, il s'est passé 8 ans. Parce qu'entre-temps, il y a eu Intouchable, ma vie aux États-Unis. Donc, le Sénégal s'est éloigné géographiquement. Donc, oui, il s'est passé 8 ans. Et c'est vrai qu'en y retournant, j'ai redécouvert le Sénégal. J'ai vu comme le Sénégal avait totalement bougé. Il s'est modernisé. Et c'était beau à voir. C'était beau à voir comme finalement la modernisation de ce pays n'a pas atteint toutes les traditions, toutes les valeurs. Ça se fait sainement et lentement, comme dans un rythme assez sain, je trouve.
L'une des premières images que voit votre personnage lorsqu'il arrive à Dakar, ce sont des rues noires de monde au moment de la prière. Partout des gens agenouillés alors que lui est bloqué dans sa voiture. Et ça, c'est une scène très forte,
oui,
Omar.
Oui, je suis d'accord, merci.
Mais qu'est-ce qui se joue en réalité dans cette scène-là?
Mais ça, ce qui se joue, c'est beaucoup de choses. Ce qui se joue, c'est le temps. Le temps. Lui, il est pressé, on le presse, il sort de l'avion, on lui dit dépêchez-vous, il est dans un rythme qui est le rythme de sa vie, dans laquelle il est complètement perdu. Et là, d'un coup, il est bloqué. Il est bloqué par des gens qui prennent le temps, eux, de s'arrêter et d'aller chercher quelque chose de spirituel. Et donc, lui, il est bloqué. Là, il y a ce temps où lui, qu'est-ce qu'il fait de ce temps-là, lui? Il sait pas s'arrêter. Et il est obligé de s'arrêter. Et là, il s'arrête pour la première fois. Il arrive dans le pays, on lui dit, arrête-toi 2 secondes.
Vous savez vous arrêter, vous?
Moi, j'y arrive, ouais. J'y arrive. Et en même temps, il y a le questionnement sur la spiritualité. Est-ce qu'il en est, lui, dans sa vie avec la spiritualité? Et qu'est-ce qu'il a avec ça? Vu son nom, Saïd Outal, c'est un musulman, mais est-ce qu'il est musulman? Est-ce qu'il a cette foi? Donc, il y a toutes ces questions-là qui viennent chez lui. Oui, moi, je sais m'arrêter. Je sais m'arrêter justement parce que je connais ce rythme. Je connais ce rythme et organiquement, c'est le mien. C'est le mien. Donc, je suis une tortue et j'aime m'arrêter. Quand je dis que j'ai rendez-vous avec des arbres, c'est que j'ai rendez-vous avec une pause.
Vous venez de dire que vous étiez une tortue, Omar. Si vous pensez que je ne vais pas le relever, c'est pas la peine. Celle qui n'est pas tortue dans cette émission, qui n'est pas organique, qui n'est pas du tout spirituelle non plus, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture. Et son actualité banale, fade, et que rien ne distingue, pas même la vulgarité. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 17 janvier?
Vous espériez trouver le bonheur dans les lits?
On est jeudi, évidemment. Musso toujours plus haut, le Figaro et l'Institut GfK viennent de dévoiler le classement annuel des romanciers francophones qui vendent le plus. Résultat, en 2018, c'est encore Guillaume Musso qui s'impose, bien loin devant Michel Bussy et Joël Dicker. Deux informations importantes à tirer de ce classement. D'abord, ceux qui vendent, vendent toujours plus. Le volume des ventes des 10 premiers auteurs de best-sellers a augmenté 3% cette année. Ensuite, ceux qui vendent beaucoup vendent en poche. En moyenne, 70% des exemplaires écoulés sont des petits formats. Comme quoi, en littérature aussi, la taille, ça compte. Quel cirque ! C'est aujourd'hui que débute la 43e édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo. 150 artistes originaires de 15 pays différents sont attendus pour enflammer la piste, mais aussi pour se disputer le clown d'or. Seule polémique au tableau, l'engagement de Stéphanie de Monaco pour la défense du cirque traditionnel, c'est-à-dire avec des animaux sauvages. Ce qui est loin de plaire à tout le monde et ce qui est surtout à contre-courant de la tendance actuelle dans le milieu circassien international. Tu parles d'un ouragan.
7-5, c'est la Champions League. 9-1, c'est la Champions League.
MHD en GAV, le jeune rappeur parisien s'est vu contraint d'annuler ses prochains concerts, notamment prévus aux Pays-Bas et au Luxembourg. Le jeune artiste de 24 ans est en effet retenu en garde à vue depuis mardi dans le cadre d'une enquête sur la mort d'un jeune homme à Paris en juillet dernier. Dans les prochains jours, MHD devait partir en tournée en Europe et aux États-Unis avant un grand show à l'Accor Hotel Arena à Paris-Bercy le 23 mars prochain.
Dès que la surprise du marié est terminée, on envoie. D'ailleurs, garde un peu ton portable à la main, comme ça moi je t'appelle et je te dis go.
Ou juste un texto, hein?
Non.
Le sens de la fête, la science de la gagne aussi au Festival de l'Alpe d'Huez. Le film d'Olivier Nakache et Eric Toledano a reçu le prix Comédie Unifrance qui récompense la comédie française qui a réalisé le plus d'entrées à l'étranger. L'année dernière, c'était Demain tout commence d'Hugo Gélin avec vous, Omar Sy, qui avait reçu ce prix. Chronique rocambolesque de l'organisation d'un mariage avec Jean-Pierre Bacri et Gilles Lelouch. Le sens de la fête a séduit près de 2 millions de spectateurs en dehors de la France. Cocorico. Omar Sy, je le disais, invité de Boomerang ce matin pour Yahoo, et je résiste pas quand même à vous parler d'une autre actualité qui fait fureur aujourd'hui aux États-Unis, c'est la sortie du remake d'Intouchables dont tout le monde parle, The Upside, qui cartonne, et qui fait aussi beaucoup parler. De quel œil est-ce que vous la voyez, cette sortie, vous?
Ben, c'est super. Moi, c'est super. Je trouve que c'est encore une surprise que nous amène ce film. On est là maintenant 6 ans après la sortie, et il se passe encore des choses avec ce film. Depuis la sortie de ce film, tous les jours, on a une surprise, et là, c'en est une de plus. Mais malheureusement, je n'ai pas encore vu
le film.
Ouais, pas encore.
Mais culturellement, c'est assez intéressant, parce que ce sont deux pays, et vous le savez mieux que personne, qui sont complètement différents, la France et les États-Unis.
Totalement.
Et du coup, l'accueil n'est absolument pas le même, notamment dans le choix de faire incarner le rôle de François Cluzet par un acteur valide. Vous savez qu'il y a une sorte de controverse, en fait, aux États-Unis, ça passe pas, en réalité.
Ah, ouais. Je savais pas ça.
Ouais, ça passe pas bien du tout.
Ah, mais je vais regarder ça de plus près, mais en même temps, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, comme quoi ce film apporte aussi des changements, et en voilà un.
Bah oui, peut-être l'Amérique est plus politiquement correcte que la France encore.
Ah, mais pas encore, c'est sûr, et je pense que ça changera jamais.
Ça a pu vous inquiéter, ça, parfois?
Non, parce que l'air de rien, en France, on y vient aussi, au politiquement correct un petit peu extrême. Donc finalement, c'est les États-Unis ne bougeront pas, il faut juste que nous, on les rejoigne pas. Quoi.
Qu'on résiste,
exactement.
Je vous ai invité pour Yao, ce film de Philippe Godot, dans lequel vous vous êtes beaucoup investi, y compris en tant que producteur. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi s'investir autant, Omar Sy?
Alors, c'est pas vraiment fallait-il, c'est-à-dire que ça s'est fait un peu naturellement. C'est la rencontre avec Philippe Godot, donc le réalisateur, mais aussi le producteur, en discutant sur ce projet, en avançant, en se posant énormément de questions, en discutant, de voir en fait qu'il était énormément dans le partage et dans l'envie de faire ce film vraiment avec moi. Il m'a laissé cette place, et il a bien fait, parce qu'en me laissant cette place, en fait, je me suis senti hyper à l'aise avec le sujet, avec le film, et totalement investi, et donc du coup un petit peu plus en confiance aussi.
Et vous avez mis plus de vous?
Et complètement, et justement comme j'avais cette place-là, ça m'a permis, et dans le jeu, et dans tout d'ailleurs, d'être un petit peu moins pudique que d'habitude.
Parce qu'il faut dire que le personnage principal, il est comme vous, comédien, adulé en France, mais aussi au Sénégal, où il est présenté comme une sorte de modèle, et j'ai l'impression que ça le gêne toujours un peu, d'être présenté comme ça, dans le film.
Oui, bien sûr, parce que en plus, quand on l'attrape dans le film, c'est un moment de sa vie où lui, il se voit plus du tout comme ça. Mmh. Plus du tout comme un modèle. Et surtout, je pense qu'il sait même plus vraiment qui il est. Parce que justement, comme on le disait tout à l'heure, happé par un rythme qu'il reconnaît pas, il est perdu là-dedans. J'aime bien dire que c'est comme un super beau vase, mais qui est vide. Et donc, qu'on le présente comme un modèle, lui, il sait qu'il y a un problème.
Rassurez-moi, vous êtes un vase plein, vous, Omar Sy.
Moi, je suis plein, plein de bonnes choses à boire.
En quel modèle est-ce que vous avez pu avoir l'impression, parfois, qu'on vous ait transformé ?
Redites-moi ça, pardon.
Ça vous est arrivé de penser qu'on vous avait transformé en un modèle ? Vous aussi.
Non, on peut pas me transformer comme. Après, je sais qu'on me voit. On peut me voir comme ça, mais.
Ah oui.
Mais après, ça c'est ça concerne tous ceux qui projettent ça.
Mais il faut savoir s'affranchir de l'image.
Ben oui.
Du coup.
Ben c'est.
Que les gens ont de soi.
Oui. Ben c'est ce que. En tout cas, moi, ça m'appartient pas. Ça m'appartient pas. L'image que les gens ont de moi, c'est leur histoire à eux. Et tant mieux si ça peut les aider. Mais moi, je n'ai pas à devenir cette image, parce qu'une image, c'est figé. Et c'est mort. Moi, je suis en vie.
Mais le film est intéressant en ce sens. Hein. Il pose des questions sur la notoriété, sur l'incarnation, sur l'identité aussi. Jamais vous vous êtes perdu, vous ?
Bien sûr que si. Bien sûr que si. Comme tout le monde, j'ai cherché et je cherche encore des choses. Mais on est là pour ça, je crois. Et, mais l'identité, ouais, c'est une des premières choses à faire. Et j'ai eu la chance, moi, de répondre à des questions essentielles assez tôt.
C'est-à-dire ?
Ben, qui j'étais et qui j'avais envie d'être.
Par le prisme du Sénégal, justement ?
Et par la France, surtout.
Vous préférez quoi ? Voyage sur la Lune, 20 milieux sous les mers, voyage au centre de la Terre.
Tu veux que je te dise ? J'en sais rien, j'ai pas lu.
T'as pas lu Jules Verne ?
Non. Tu les trouves où, tes bouquins ?
À la bibliothèque Nelson Mandela. Y a pas de bibliothèque que vous avez grandi dans les Yvelines ?
Si. Mais c'était pour les filles. Si les potes te voyaient rentrer dans la bibliothèque, t'étais mort. Même quand t'arrives à rentrer, tu te faisais jeter parce que tu parlais trop fort. Même quand tu parlais pas.
Moi, si je suis pas astronaute ou plongeur, je vais écrire un livre.
C'est bien, tu veux écrire quoi ?
Harry Potter.
C'est déjà fait, ça.
Une école de sorcière en Afrique, c'est pas pareil.
T'as raison.
J'ai une question.
Sans blague.
Pourquoi tu parles plus de ta mère que de ton père dans ton livre ?
Mon père, il veut pas trop qu'on parle de lui.
Pourquoi ?
J'en sais rien, c'est son histoire.
Pourquoi t'es jamais venu au Sénégal ?
Dis-moi, tu t'arrêtes jamais, toi ?
Tu veux pas me dire ?
Il n'y a rien à dire.
S'il te plaît.
Arrête !
Le formidable Lionel Louis Bass dans le rôle de Yao, ce petit garçon qui vous donne la réplique, Omar Sy et son personnage. Il se trouve que c'est un lecteur,
oui.
Il parle beaucoup de livres. Quel lien est-ce que vous entretenez, vous, avec les livres ?
Moi, c'est une relation déjà que j'ai développée assez tardive.
Ah ?
Parce que, pour le coup, je suis pas loin de mon personnage là-dessus. Mon lien à la bibliothèque, c'est le même que Saïdou. C'est-à-dire que la bibliothèque, en fait, elle était là, bien sûr, on en avait. Hein. Mais on n'y rentrait pas. On n'y rentrait pas parce que on n'avait pas le droit. Et ça, c'est un truc d'identité aussi. C'est que tout est mis en place pour qu'on se sente pas le droit d'y rentrer. Et même quand on y rentre, on n'est pas hyper bien accueilli. Donc c'est un truc qui nous éloigne des livres. Donc moi, j'ai découvert la lecture un peu tardivement. Ouais. Mais aujourd'hui, j'aime ça. J'aime lire.
En tout cas, pour Yao, les livres qu'il trouve donc à la bibliothèque, c'est pour lui un moyen de s'évader.
Complètement.
Un moyen de rêver. Qu'est-ce qui vous faisait rêver, vous, quand vous aviez une dizaine d'années, si ce n'était pas les livres ?
Ben... ça va vous choquer parce que c'est.
Oh, je suis rarement choqué.
C'est la télévision.
C'est vrai.
Mais non, mais j'avais pas d'autre moyen de sortir de chez moi, de ma culture, de ma condition que la télévision. Parce que pas de livres. À l'époque, on n'allait pas au cinéma. Et moi, je suis né, le magnétoscope n'existait pas encore. Donc c'était la télévision. Je voyais des films à la télévision.
Pour devenir acteur.
Non, l'acteur, ça c'était encore plus tard.
Ah.
Mais non, ouais, c'était les mangas, c'est comme ça que je voyageais, moi. Mais à la télé.
À partir de quel moment est-ce que vous vous êtes dit, je ne veux plus être Sangoku, mais je vais être un acteur ? À partir de quel moment ce rêve ?
Ben, quand j'étais en train de le faire.
Ah, c'est vrai ?
Ouais, c'était... ouais, je pense que ça s'est passé... peut-être, oui, après mon premier court-métrage. Et ça, c'était en 2001.
Ça a été compliqué de comprendre que c'était un rêve qui était à votre portée, somme toute ?
Bien sûr, parce qu'il a fallu le faire, et le faire n'était pas simple. Mais ouais, ça a été compliqué même de s'autoriser à y penser.
De dire j'ai le droit, en fait.
De dire j'ai le droit, ouais. Ouais, bien sûr. Et c'est là où je crois, par exemple, aujourd'hui, on a un travail à faire sur la jeunesse, parce que ça passe déjà par ça. Ça passe déjà par les limites qu'on se met dans la tête. Et ces limites, elles sont mises dans notre tête, pas forcément par nous-mêmes, même si on a l'impression que ça vient de nous. C'est tout ce qui est mis en place, c'est la manière dont on nous regarde, la manière dont on nous parle. et tout ce qu'on nous propose, aux informations auxquelles on a accès. Il y a des informations qu'on... Il y a des métiers, il y a un tas de choses que j'ai découvertes tardivement.
C'est là où le rôle de modèle est intéressant, Omar Sy. C'est là où vous faites changer les choses, rien que dans la mesure où on vous voit, en réalité.
Ah, peut-être. Ben voilà, ben ça c'est pas mal déjà. Ça c'est bien.
Qu'est-ce qui vous fait rêver, vous, aujourd'hui ?
Moi, ce qui me fait rêver, c'est de continuer à faire ce que je fais. Moi, faire des films, ça me fait rêver, puisque justement, tout ça est arrivé un peu, on va dire, par surprise. Le fait d'être là aujourd'hui, ça me fait rêver.
Bon, ben, vous savez quoi, on va continuer à rêver, alors, si vous me dites ça. Juste après Mama Cass, Dream, A Little Dream of Me, The Mamas and the Papas, c'était en 68. Vous êtes sur France Inter, avec Omar Sy, et on rêve.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on here, still craving your kiss. That leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Bah, avec son regard doux, son sourire jusqu'aux oreilles, qui peine parfois à dissimuler sa timidité, parce qu'elle est là, hein, la timidité, c'est simple. On lui donnerait le bon Dieu sans confession ou en culotte de velours, c'est une expression. C'est selon, avec son petit gilet gris, là, avec des boutons. Il ne les a pas boutonnés, il a un t-shirt en dessous et son casque vissé sur les oreilles. Le comédien Omar Sy, invité de Boomerang ce matin pour Yao, de Philippe Godot, en salle mercredi prochain. L'histoire d'un homme, on le disait, né en France, qui va vivre un retour au pays, celui de ses ancêtres, qui va traverser le Sénégal. Le Sénégal, c'est le pays de son père, celui de sa mère, c'est la Mauritanie. Pourquoi c'est le pays du père qu'il retrouve, tiens, plutôt que le pays de la mère?
Non, dans le film, on ne dit pas le pays de sa mère, mais on imagine que le pays de sa mère, c'est Sénégal. Là, la Mauritanie pour ma mère, c'est pas le personnage, mais moi.
Alors, donc, j'ai confondu.
Et vous avez confondu les deux, mais ça arrive souvent.
Ouais, pour ce film en particulier.
Oui, on nous confond, mais parce qu'il paraît qu'on se ressemble, mon personnage et moi.
Vous n'êtes pas d'accord?
Dès qu'on se ressemble, ouais. Physiquement, si, oui.
Au Sénégal, que faisaient vos ancêtres à vous? Qu'est-ce qu'ils faisaient?
Dans ma famille, c'était des ce qu'on appelle les savants d'islam, c'est ceux qui lisaient le Coran parce que à l'époque tout le monde ne lisait pas. Donc et il y avait aussi des tisserands. Ils faisaient des tissus, des tapis.
Et pourquoi votre père est parti en France ?
Ben parce que justement, il voulait acheter, il voulait de l'argent pour acheter une machine et des bobines pour faire des tapis.
C'est vrai ?
C'est vrai. Il avait besoin de 2000 francs à l'époque. Donc il est venu pour avoir ces 2000 francs et repartir.
Il vous l'a souvent raconté cette histoire-là ?
Non, il me l'a raconté tard. J'ai appris cette histoire-là, j'avais 19 ans.
Comment vous avez réagi ?
J'étais surpris, je me dis, ben, qu'est-ce que...
Vous avez dit, c'est fou quand même un destin pour une machine.
Mais j'ai surtout, pourquoi t'es pas rentré ? Et puis il a dit non, parce que les 2000 francs sont arrivés assez rapidement. Et puis après, il est devenu gourmand, et puis il a fini par s'installer.
Ça veut dire que le rêve de votre père, vous le compreniez pas forcément à l'époque ?
Non, je le comprenais pas. Mais finalement, on est arrivé. Je crois que c'est nous qui avons barré son plan, en fait. Après, je pense que son rêve, il l'a sacrifié pour le nôtre. Il avait un rêve pour nous, en fait.
Dans le film, votre personnage, il parle pas de ces choses-là avec son père. Et on sent que pour lui, c'est une blessure. Que le silence, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est un silence qui a été pesant.
Oui, et c'est d'ailleurs le vase vide qu'il est devenu. Ça vient de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour se trouver, je pense que c'est essentiel de savoir un peu qui on est, d'où on vient. Et ça dépend aussi de qui était là avant nous. Et de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont apporté. Je pense que oui, il y a un dialogue rompu avec le père et que le petit d'ailleurs, Yao, va combler. C'est-à-dire tout ce que le père de Saïdou aurait pu lui apporter, le guider dans ce pays, traduire, lui dire ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, les traditions. Et ben, ça, c'est Yao qui à un moment donné a ce rôle-là.
Il y a des silences qui ont été pesants pour vous, Omar Sy, dans votre vie.
Bien sûr. Mon père, il communique beaucoup par le silence. Et je sais que souvent, le silence chez mon père correspondait à un moment où il était déçu. Et décevoir mon père, c'est quelque chose de difficile pour moi.
Vous l'avez réglé, ça, il est fier de vous.
Oui, maintenant, bien sûr.
Mais je vous pose aussi la question parce que j'ai le sentiment que c'est qu'une des choses qui peut-être vous caractérise le mieux, c'est aussi la pudeur. D'où elle vient cette pudeur ?
Ben, je pense de ça, de la culture que m'ont apporté mes parents, dans la culture Peul. Plus précisément, la pudeur, c'est quelque chose de noble et on peut pas faire sans et du coup ouais ça vient de ça. Il y a des choses qui se disent pas, des choses qui se font pas, donc on est pudique. C'est comme ça, des choses qu'on n'arrive pas à faire, quoi.
Et si vous lisiez la feuille qui est devant vous, que
ouais,
vous nous avez apportée?
D'accord. En Afrique traditionnelle, l'individu est inséparable de sa lignée qui continue de vivre à travers lui et dont il n'est que le prolongement. C'est pourquoi, lorsqu'on veut honorer quelqu'un, on le salue en lançant plusieurs fois son nom. Pas son nom personnel, ce qu'on appellera en Europe le prénom, mais le nom de son clan. Ba, Ba, ou Diallo, Diallo, ou Sissé, Sissé. Car ce n'est pas l'individu isolé qu'on salue, mais à travers lui, toute la lignée de ses ancêtres.
C'est-à-dire qu'on vit entouré de fantômes, en fait, d'esprits, Omar Sy.
Ouais, on peut appeler ça des fantômes, mais on peut juste aussi imaginer ça comme moi, mon père, il dit une chaîne, en fait. C'est une grande chaîne avec des, et on est chacun un maillon. Et en fait, quand on arrive à passer le relais, quand on arrive à passer les traditions, les valeurs, le sens de la famille, de tout ce qui a été fait avant, eh ben, du coup, on n'est pas le maillon faible, on n'est pas le maillon qui casse. Et en fait, il faut faire en sorte que cette chaîne soit la plus longue possible.
Ça veut dire que ce sont aussi ces esprits, ces maillons de la chaîne, ces ancêtres qui vous ont guidé jusqu'ici, jusque là où vous êtes aujourd'hui.
Je pense que oui, chacun fait un travail pour que cette chaîne arrive quelque part, en fait. Et on est, je crois, un peu responsable de ça. Et que quand on est à un endroit, on n'est pas arrivé tout seul. C'est toute cette chaîne qui nous a guidés là. Donc moi, tout bêtement, le fait d'être là, je le dois à mon père, mais qui lui le doit à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et ça va être pareil pour les autres.
C'est un texte d'Amadou Ampateba.
Oui, c'est ça.
Que vous avez lu, l'enfant Peul.
C'est un peu moi.
Il est grand, l'enfant Peul, là. Ce qui est passionnant, à mon sens, dans ce film, c'est aussi que quelque part, vous nous parlez de croyance, vous nous parlez de foi. Et j'en reviens à cette question que j'évoquais au début de l'émission. Pour vous croire, qu'est-ce que ça veut dire, Omar Sy ?
Ben, c'est vivre. C'est vivre, croire. Croire en n'importe quoi, c'est vivre. Juste à un moment donné, d'être animé par une croyance, juste être capable de croire, voilà, qu'on va faire un truc. Quand on regarde un film, croire en l'histoire qu'on regarde et écouter la musique, la ressentir, c'est aussi une forme de croyance. Croire en l'amour, en l'amitié, en plein de choses comme ça. Croire, c'est essentiel.
Vous avez toujours cru, vous ?
Ouais, en beaucoup de choses.
En vous, notamment ?
Oui, ça m'arrive des fois.
Merci infiniment, Omar, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Yao de Philippe Godot avec Lionel Louis Bass et Fatoumata Diawara, entre autres,
oui,
qu'on aime beaucoup dans cette émission, qu'on a reçue à ce micro, sort mercredi. C'est un très beau voyage, je vous le garantis. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire. Je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Tout haut, il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier pour y croire. Il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué.
Tout oublier, Angèle et Roméo Elvis sur France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia. L'instant M.
Je suis là et je suis au taquet, ami Augustin.
Comme souvent.
À demain.
Et je vous en félicite. À demain.
Ciao.